Je m'appelle Mathieu Hédé, j'ai 34 ans et je suis médecin urgentiste depuis 2013. Alors c'était il y a 3 ans, 3 ou 4 ans maintenant déjà. C'était au tout début en fait, quasiment au tout début de ma carrière de smuriste, d'urgentiste de SAMU SMUR. On a été bippé pour fusillade dans une des villes du coin. Donc j'y crois presque pas en fait quand sur le bip il y a marqué fusillade. Je me dis que c'est pas possible, que ça peut pas m'arriver aussitôt. Mais c'est le boulot, donc je suis monté dans l'ambulance et évidemment, pendant le trajet, le SAMU nous a tenus informés de l'état d'avancement de la scène. Puisque quand on part, on nous dit fusillade toujours en cours. Donc évidemment, on est un petit peu crispé et je me dis qu'il va falloir surtout rester en sécurité. Donc on était excité et puis évidemment un peu terrorisé. On a pris des risques, évidemment, puisqu'on roule très vite, on se faufile entre la circulation, on grille les feux, les lignes blanches, etc., etc. Alors, quand j'arrive sur les lieux avec l'équipe, ce qui frappe, c'est l'agitation ambiante. C'est-à-dire qu'on s'est garé à une centaine de mètres derrière un bâtiment pour être en sécurité. Il y a deux voitures de police qui barrent la route d'accès à l'endroit où se situe la fusillade. Et en fait, je ne comprends pas ce que je vois. Je vois des gens courir partout, des gens crier, hurler, la police faire des grands signes. Et je vois un policier qui est accroupi derrière sa voiture pour se protéger. C'est assez surréaliste comme situation. On arrive sur une zone de guerre quelque part. Hein. C'était dans une cité défavorisée, donc avec des barres d'immeubles de chaque côté de la rue, en pleine journée, un midi, à peu près, ouais, vers midi, quelque chose comme ça. Bon. Et je suis allé immédiatement voir le policier accroupi dans sa voiture. Et je lui ai dit, c'est sécurisé ou pas les lieux? Il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit, je ne sais pas. Bah, donc on n'a pas avancé et on s'est dit, encore une fois, on ne va pas avancer. Et finalement, c'est un pompier qui est venu nous chercher en courant, en disant, les tireurs sont partis, ils viennent de partir, vous pouvez venir. Donc on avance dans cette rue, on passe les voitures de police qui font le barrage, et on s'approche d'un bar, en fait, qui fait l'angle d'un des immeubles. Et sur la gauche, sous les arbres, on voit des dizaines de personnes qui s'agitent autour de pompiers, qui sont eux-mêmes en train de s'agiter autour d'un patient victime des tirs, qui est extrêmement musclé, qui est extrêmement grand, extrêmement costaud. Et il est par terre et le pompier me tire presque par la manche en disant Doc, doc, venez, il va pas bien, il va pas bien. Et donc je m'approche et je rentre dans un groupe de personnes, dans un attroupement. Et puis j'entends un peu tout ce qui s'est passé, j'entends des encouragements, j'entends des insultes, on me pousse, et je vois ce patient troué de partout, dans la poitrine, dans le ventre, encore en vie. Un peu gris quand même, un peu mal en point. Et le pompier qui me dit, il y a encore trois victimes dans le bar. Et donc après, avec l'infirmière anesthésiste, on pénètre dans ce bar où sont allongées les trois autres victimes. Et quand on rentre, immédiatement sur la gauche, il y a un patient en arrêt cardiaque qui est massé par les pompiers. Il me demande, qu'est-ce qu'on en fait? Je lui dis, dans une situation de catastrophe comme ça, je lui dis, il y a d'autres victimes, il est mort, donc je passe à un autre patient, en demandant quand même au pompier de continuer de pratiquer le massage cardiaque sur cette victime, dans l'attente d'un autre médecin qui viendra lui faire les manœuvres de réanimation. Mais moi, je suis premier médecin, il faut que j'aille trier les patients les plus graves, et il faut que j'aille demander des renforts au SAMU. Et je trouve deux autres victimes, donc une victime avec des impacts de balles dans les jambes, et une troisième qui était cachée dans les toilettes, et qui est sidérée de la situation, qui comprend pas ce qui se passe, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Chicago ici ou quoi? Mais c'est Chicago. Et il répète en boucle, c'est Chicago, c'est Chicago, c'est Chicago. Je suis dans ce bar, avec un arrêt cardiaque, trois blessés graves. Je suis au tout début de ma carrière, et il y a une vingtaine de pompiers qui me demandent ce qu'ils doivent faire. Je suis un petit peu dépassé par les. En tout cas, intérieurement, je suis dépassé par cette situation et je me dis, il faut réfléchir, respirer un grand coup et faire ce que tu sais faire, ce qu'on t'a appris à faire, ce pourquoi tu es là. Il y a un médecin-pompier qui arrive. C'est lui qui devient chef de la coordination des secours sur place. Ce qui m'enlève un poids terrible. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir faire ce que vraiment je sais faire. C'est-à-dire aller essayer de soigner des insoignables. Avant que le médecin-pompier prenne en charge les opérations de secours, j'avais passé un bilan au SAMU en stipulant que les moyens sur place étaient inadéquats par rapport au nombre de victimes et à leur gravité. Donc en fait, j'ai appelé immédiatement pour leur dire, j'ai 4 patients graves, et donc 4 patients graves, ça veut dire, il me faut 4 équipes. Il me faut 4 équipes de réanimation. Je les ai demandés. Et au moment où je me dis, je vais prendre en charge le patient qui est en train de répéter, c'est Chicago, parce que c'était le plus grave qu'il fallait prendre en charge, il y a un pompier qui vient et qui me tire par la manche et qui me dit, toc, toc, j'en ai un autre dans le camion. On retourne dans la rue pour monter dans ce camion de feu, de ce qu'on appelle un premier secours, un prompt secours, c'est un camion avec une grosse citerne en dessous. Et donc je rentre dans ce camion, extrêmement confiné, et je vois un jeune pompier, un peu blême, qui me dit il va pas bien. Et je baisse les yeux, je vois sur le brancard un homme qui effectivement va pas bien, qui est en train de délirer, qui a des impacts de balles dans l'abdomen et dans l'aine, qui saigne, des blessures qui sont très graves. Il a plus de tension, plus de pression artérielle. En gros, il est en train de mourir de ses plaies. Et avec l'infirmière anesthésiste, on dit, bon, il va falloir le prendre en charge extrêmement rapidement et l'amener à l'hôpital où on va pouvoir l'opérer et essayer de le réparer pour le maintenir en vie. On a fait ce qu'on a pu. On vérifiait le pouls à son poignet, je le sentais quasiment plus. On l'a endormi comme on a pu, on l'a perfusé, on a eu du mal, mais on l'a fait. Et on a roulé. Le transport, il a duré un quart d'heure, c'est pas beaucoup, mais avec un patient, tu vas voir... 45 ou 50 ans, qui est en train de mourir sous vos doigts, c'est long. On est arrivé à l'hôpital. C'est une des rares fois où je suis arrivé à l'hôpital avec mon équipe et où on a couru avec le brancard, comme dans les films. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais cette fois, c'est arrivé. J'avais ma main sur son poignet pour savoir s'il était toujours vivant. C'était assez compliqué. On a couru pour aller dans la salle, ce qu'on appelle de déchocage en réanimation, où en fait, les anesthésistes réanimateurs puis les chirurgiens prennent le malade en charge. Eux ont fait leur partie du travail et ensuite, je voulais pas quitter la réanimation, j'ai regardé, je suis resté longtemps jusqu'à ce que le patient disparaisse, qu'on l'emporte jusqu'au bloc opératoire et je me disais, il faut pas qu'il meure et j'avais envie de savoir ce qu'il avait. Donc évidemment, je me suis renseigné plusieurs heures plus tard pour savoir s'il avait survécu. Et donc en fait j'ai eu des précisions, la chirurgie s'est bien passée, alors il a eu des séquelles évidemment puisqu'il a eu des organes touchés, notamment la vessie, il a eu une poche après, une poche à urine, mais il était vivant et je suis allé le revoir plusieurs jours après dans le service de réanimation pour aller lui serrer la main, ça m'arrive pas souvent mais là j'y suis allé parce que je me suis dit il est passé tellement près. Quelque part, j'étais ravi de le voir vivant, et même avec sa poche à urine, j'étais désolé pour lui, mais je me disais, quelle joie de le voir vivant. Alors j'ai su ce qui s'est passé plusieurs jours après. Et c'est aussi pour ça que ce patient m'a marqué, c'est que c'était un ouvrier qui travaillait dans un chantier à côté, qui était venu dans le bar pour manger son menu du jour, et qui s'était fait tirer dessus par une bande des quartiers environnants, venus pour régler leur compte avec les gens locaux. Il y avait dans le bar une victime de règlement de compte, sur le trottoir une victime de règlement de compte, et les trois autres victimes étaient des patients innocents qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. Quand je suis rentré dans la chambre de réanimation, ils se souvenaient pas de moi, et c'était très intense, parce que pendant plusieurs minutes, je lui ai touché l'épaule, il m'a tenu la main, il m'a dit merci, alors qu'il se souvenait pas de moi et que je l'avais pas vu autrement que pré-mourant. On s'est rencontrés vivants.